Bénis son nom ce matin, élève la voix, pousse des cris de joie à la gloire de ton Dieu. Nous t'exaltons, nous te bénissons ce matin, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Et le peuple de Dieu dit Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Et on va prendre nos Bibles dans le psaume 24. Le psaume 24. Je lis un verset, vous lisez le suivant. Amen, comme d'habitude. Hein. Psaume de David, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est à vous. Ok, on va reprendre. Comme ça, vous allez bien vous coordonner. Ceux qui n'ont pas encore trouvé vont trouver. Amen. C'est bon, tout le monde a trouvé. On y va. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Amen. Qui est donc ce roi de gloire? Amen. Qui est donc ce roi de gloire? Verset 8. L'Éternel fort et puissant. Amen. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. Alléluia. Dis à ton voisin, mon Dieu est fort et puissant. Amen. Il est fort et puissant. Amen. Nous avons commencé notre série sur les leviers du succès, et nous avons vu qu'il était important de se fortifier. Et nous avons vu que se fortifier veut dire en réalité se rendre plus fort. Amen. Et Dieu n'a pas cessé de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage. Ensuite, il lui dit, fortifie-toi seulement. Et après, il lui dit encore, fortifie-toi et prends courage. Donc, et il lui dit ça pourquoi? Parce qu'il a mandaté Josué pour pouvoir faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. Et lui dit, c'est toi que j'ai choisi pour faire entrer le peuple de Dieu à Canaan. Et parce que je t'ai choisi, il faut savoir qu'il y aura des guerres, il y aura les Jébuséens à vaincre, il y aura les Éthiens, les Éviens, il y aura les Cananéens, il y aura beaucoup de guerres. Mais il faut savoir une chose, c'est que si tu n'apprends pas à te fortifier, tu vas te décourager en chemin. Si tu n'apprends pas à te fortifier, tu risques de baisser les bras. Et nous avons vu que pour que quelqu'un véritablement puisse poursuivre son rêve, poursuivre l'objectif de sa vie, aller jusqu'au bout, il y aura des découragements dans sa vie. Il faut que, au-delà de la grande généralité de personnes, il ait la capacité de lui-même de pouvoir se fortifier. Amen. Pourquoi se fortifier? On se fortifie pour devenir fort. Et là, ici, lorsque nous lisons ce passage dans le livre des psaumes, qui est notre psaume de la semaine, la Bible nous donne beaucoup d'indications. Il dit dans le psaume, au verset 1 déjà, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé sur les mers et a fermé sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Qui va pouvoir monter à la montagne de l'Éternel et s'élever près de lui, c'est qui? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Donc celui qui vraiment vit déjà dans la sanctification. Amen. Et pourquoi? Parce que la sanctification aussi, c'est une force. Ensuite, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Au verset 6, voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mais qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? C'est qui? Et la Bible nous dit, l'Éternel fort et puissant. Vous avez trois qualifications ici. Vous avez éternel, ça veut dire de tous les temps. Il vit à jamais. Amen. Ensuite, on dit qu'il est fort et puissant. Je vous ai dit la dernière fois que faut qu'on arrête. En fait, faut pas qu'on se laisse tromper. Nous vivons dans un monde où c'est la loi du plus fort. Et dans le monde spirituel aussi, ce sont les plus forts qui obtiennent les choses. Ce sont les plus forts spirituellement qui arrivent à conquérir, qui arrivent à avancer. Et Jésus l'a dit, depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est pris par la force. Quand on dit est forcé, ça veut dire depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est pris par la force. Et ensuite il dit, et ce sont les violents qui s'en emparent. L'expression violente, en réalité, violent veut dire qui use de force. Donc, il n'était pas obligé de traduire, ce sont les violents qui s'en emparent. Il peut dire, depuis Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé, et ce sont ceux qui utilisent la force qui s'en emparent. Donc, c'est basé sur la force. C'est pour ça qu'il dit, il a parlé aussi de l'homme fort. Il dit, lorsqu'un homme fort est bien armé, veille sur sa maison, tout ce qu'il a est en sûreté. Mais s'il parvient un plus fort que lui, il le dompte, et qu'est-ce qu'il fait? Il le lie et il se distribue la dépouille. Donc c'est une question de force. Et d'éternité en éternité, le roi de gloire que nous servons est un roi éternel, fort et puissant. Alléluia. Et nous devons être comme notre père, non? N'est-ce pas? Il dit tel père, tel fils. Quand les disciples ont demandé à Jésus, Seigneur, enseigne-nous à prier, il leur a dit, notre Père qui es aux cieux. Si ton Père est fort et puissant, toi, tu ne peux pas être faible et impuissant. C'est pour ça que Dieu lui-même a donné un ordre. Si tu prends ta Bible dans les psaumes, au chapitre 68, verset 29. Amen. Psaume 68, 29. Moi, je connais ce verset par cœur. Psaume 68, 29, qu'est-ce qu'il dit? Psaume 68, 29. Psaume 68, 29. Tu as trouvé? Qu'est-ce qu'il dit? Ton Dieu fait quoi? Ordonne quoi? Que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un ordre. Amen. Pourquoi? Parce que ce soit pour réussir sur la terre, ou que ce soit même pour survivre dans les temps qui arrivent, en tant que chrétien, dans ce monde-là dans lequel nous vivons, tu dois être fort. Alléluia. Touche ton voisin, dis-lui, tu dois être fort. C'est une nécessité, c'est une obligation. Ce n'est pas une option. Tu dois être fort. Alléluia. Tu dois être fort. Si tu es une femme, tu dois être forte. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur parle des temps de la fin, où le Seigneur parle aussi des récompenses que nous allons avoir lorsque le Seigneur va paraître, il dit à chaque fois, au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur, je donnerai. Au vainqueur, je donnerai. Et par contre, aux perdants, à ceux qui seront vaincus, ils seront, hélas, dans les temps de feu. Hélas. Pourquoi je dis hélas? Parce que les temps de feu n'est pas fait pour eux. Les temps de feu n'est pas fait pour eux. Les temps de feu est fait pour le diable. Mais il faut savoir que le diable est lâché sur les hommes Et sa mission principale est de séduire le maximum de personnes et d'amener le maximum de personnes avec lui. Vous savez que lorsqu'un combat commence, comme on prend l'exemple par exemple d'un combat de boxe, dans un combat de boxe, il peut y avoir 13 rounds, jusqu'à 13 rounds. Par contre, un combat peut se terminer au premier round. On a vu des gens même être KO après 16 secondes, c'est-à-dire que les deux protagonistes rentrent sur le ring, dès qu'on sonne en même temps, il arrive, il lui arsène un coup, paf, le gars tombe, c'est terminé. 16 secondes, le combat est terminé. Mais des fois, le combat ne dure pas 16 secondes. Il peut durer 13 fois, je ne sais pas si c'est 1 minute 30 ou 2 minutes ou 3 minutes, mais ça peut devenir très très long. Et donc, il y a des gens que le diable arrive à attraper facilement. Il y a des gens contre lesquels le combat est beaucoup plus long, parce que la personne a une capacité d'encaisser. Donc, il encaisse, il répond, il encaisse, il répond. Mais c'est un combat. Mais quel que soit le temps que ça prend, que ça dure 16 secondes ou que ça dure une heure, à la fin du combat, il faut que tu sois debout. Alléluia. À la fin du combat, il faut que tu sois debout. Pourtant, en face, tu as quelqu'un qui est fort, tu as quelqu'un qui est puissant. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va pouvoir dévorer. Donc, il y a des gens qui vont se laisser dévorer, il y en a qui ne vont pas se laisser dévorer. Mais celui qui ne se laisse pas dévorer, c'est parce qu'il est fort. Quelqu'un qui ne baisse pas les bras dans l'arène du combat, il fait preuve de force. La force est obligatoire. Personne ne peut avancer sans force. Pour qu'un objet puisse avancer, que ce soit un vélo, ou que ce soit une moto, ou que ce soit une voiture, il faut que de la force soit générée pour pouvoir permettre à cette chose-là de pouvoir d'avancer. Quand quelqu'un me dit, mais pasteur, ça fait 2 ans que je suis dans cette situation, 2 ans que ma situation est bloquée, 2 ans que je n'avance pas, 2 ans que les choses ne bougent pas pour moi, je lui dis, écoute, tu as besoin de plus de force. La même situation à laquelle tu as fait face à une période, si tu reviens en face de la même situation, mais plus fort, tu auras la victoire. Nous avons l'histoire d'un homme de Dieu qui s'appelle T.L. Osborne. T.L. Osborne est un homme de Dieu qui a reçu une prophétie et une direction de la part du Seigneur. Il lui a dit, je veux que tu ailles évangéliser l'Inde. En ce moment, l'Inde ne connaissait pas l'évangile, il n'y avait pas de chrétiens là-bas. Soit dit en passant, l'Inde aujourd'hui, c'est pas un pays bouddhiste. Hein? Au contraire, à plusieurs reprises, les bouddhistes maintenant se lèvent pour aller brûler les églises. Les musulmans s'y tremblent parce que l'Inde est le pays avec la Chine où il y a le plus de conversions dans le monde. Actuellement, ils font des croisades d'évangélisation avec des veillées de prière avec des millions de personnes. D'ailleurs, lors de notre prochaine convention, on aura un bishop de l'Inde. Il a une église de plus de 360 000 personnes. L'Inde est un terrain plus que fertile pour l'évangile. Mais quand T.L. Osborne allait là-bas, il allait trouver les moines bouddhistes. Il allait trouver des gens qui étaient réfractaires à l'évangile. Et ils ne pouvaient même pas faire comme en Europe ou bien dans certains pays en Afrique pour leur dire que oui, il faut arrêter de tuer les gens. Le bouddhisme a élevé la vertu à une dimension que vous ne pouvez même pas imaginer. Tu lui dis non, il ne faut pas tuer ton prochain, mais lui, il ne tue rien. Même les fourmis ne tuent pas. Parce que quand il marche, certains moines bouddhistes, en marchant, ils ont un balai en main, ils balaient devant et puis ils mettent son pied pour être sûr qu'il ne va pas tuer une fourmi ou bien un insecte. Tu viens, tu dis oui, tu vas faire ton jeûne de 3 jours, de 10 jours, de 40 jours même. Tu dis non, on va jeûner, prier. Eux, ils font jeûne de 80 jours. D'ailleurs, il y en a même, tu ne sais même pas comment ils font. Ils sont là, on dit ils ne mangent pas. Ça fait des mois, ils ne mangent pas. Ils ont amené la chose, même les choses extraordinaires. Tu as des gens qui jouent de la flûte, ils domptent les serpents. Donc, c'est pas comme Paul, tu vas les impressionner, tu vas dire oui, si tu, il dit voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, Hein? Ils chasseront les démons, ceci. S'ils boivent un breuvage mortel, ça ne leur fera aucun mal. Mais eux, ils n'ont pas peur des serpents. En tout cas, beaucoup parmi eux, les cobras, des trucs comme ça, là, c'est des animaux domestiques. Donc, tu arrives dans un pays comme ça, je ne sais pas, quelle puissance tu vas leur montrer? Quelle vertu tu vas leur montrer? Tiens, lorsqu'on est arrivé, il est entré en Inde, il a travaillé pendant 6 ans. Il n'a même pas pu amener un seul hindou à Jésus. C'était un constat d'échec. Il dit, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Est-ce que les gens se sont trompés? Est-ce que moi-même, je me suis trompé? Est-ce que ce n'est pas un faux prophète qui m'a parlé? Et le Seigneur lui a dit, tu es parti avec ta propre force. Je veux que tu retournes en Inde avec ma force à moi. Thierry Osborne est retourné aux États-Unis. Et il est allé un jour à la croisade d'un homme de Dieu. Et lors de cette croisade-là, figurez-vous que lui va aller évangéliser les Indiens. Il n'est même pas baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Tu allais faire quoi? C'était un missionnaire baptiste. Thierry Osborne, c'est celui qui a introduit le baptême dans le Saint-Esprit à des multitudes d'Américains parce que les gens ne comprenaient pas le baptême dans le Saint-Esprit. Il a vu cet homme de Dieu-là en train de faire des miracles, de faire des choses extraordinaires. Il a dit, ah voilà, c'est ce qu'il me faut. Et ce jour-là, Thierry Osborne a été baptisé dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et il a continué à suivre cet homme de Dieu dans ses croisades, dans ses programmes. Il a vu des choses extraordinaires, des malades guéris, des situations être décantées. Et il a dit, maintenant, je suis prêt pour retourner en Inde. Thierry Osborne était parti une première fois avec sa propre force. Il est reparti une deuxième fois avec la force de Dieu, avec la puissance de Dieu. Lorsqu'il est reparti, il est en train de prêcher près d'un marché. Il dit, Jésus est la résurrection et la vie. Il y a quelqu'un qui l'a entendu. Il dit, ah bon? Donc Jésus peut ressusciter les morts? Il dit, oui, Jésus peut ressusciter les morts. Il dit, ça tombe bien. Parce que voilà le jeune homme là, c'est un jeune homme, on part à l'enterrer et puis on arrive, on tombe sur toi, tu dis Jésus est la résurrection et la vie. C'est un jeune homme, il ne doit pas mourir. Nous on sait qu'il ne doit pas mourir. Tu es en face d'une situation comme ça, si tu n'es pas fort, tu vas faire quoi? Non, en fait, c'est-à-dire que c'est en termes imagés, quoi. En fait, il faut interpréter la parole de Dieu. Laisse ça. L'évangile ne consiste pas seulement en parole, mais également en puissance. Thierry Osborne, il s'est pas découragé. Pourquoi? Parce qu'il était fort. Si c'était avant, il allait trouver des arguments. Mais là, il était revêtu. Alléluia. Il avait la force. Je vous ai dit, quand Jésus a été baptisé, au Jourdain, quand il est sorti des eaux du baptême, la Bible dit qu'il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit. Ensuite, après les 40 jours de jeûne et prière, la Bible dit qu'il est revenu du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Donc, il était équipé de force et de puissance. Il a même dit aux disciples, n'allez pas, ne faites rien, n'allez pas prêcher, ne sortez pas tant que vous n'avez pas reçu ce que mon Père a promis. Alors, vous serez mes témoins. Quelqu'un qui est témoin de Jésus doit être fort et puissant. Parce que tu as rencontré l'Éternel fort et puissant. La force doit pas, tu ne dois pas transiger dessus. Tu dois t'assurer d'être fort spirituellement, d'être fort mentalement, d'être assis. Pourquoi? Parce que ta vie dépend de ça. Thierry Osborne a prié. Et il a continué de prêcher. Et il a fait, pour la première fois dans son ministère, une résurrection de mort. Le même jour. Est-ce que vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui ressuscite un mort sur une place du marché, dans un pays comme l'Inde? C'est fini. L'évangile est entré en Inde avec la force et la puissance. Partout où l'évangile est entré, c'est avec la force et la puissance. Partout où l'évangile est entré, c'est avec la force et la puissance. C'est pour ça que les témoins de Jésus sont forts et puissants. Pourquoi? Parce qu'ils amènent l'évangile quelque part. À chaque fois que l'évangile doit entrer dans une maison, Parce que Dieu va vous utiliser aussi. Vous allez venir trouver, vous n'allez pas venir trouver une maison où monsieur et madame s'entendent à merveille et que les enfants sont heureux, personne n'est malade, il n'y a pas de besoin, il n'y a rien du tout, il n'y a aucune situation où on a besoin de Jésus. Quand c'est comme ça, les gens te regardent, oui, oui, qu'est-ce que tu dis? Non, Jésus, tu sais, écoute, moi j'ai tout ce dont j'ai besoin. C'est plus, on sent même encore plus dur, au contraire. Quand tu arrives dans une maison et on te dit qu'il y a un tel qui est malade qui est là, ou bien il y a un tel qui a ceci, ou il y a un tel qui a cela, voilà une opportunité pour que l'Église, l'Évangile puisse entrer. Pourquoi? Parce que l'Évangile entre avec la force et avec la puissance. Et ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans les temps de la fin. Ah, je ne sais pas, peut-être que tout le monde n'est pas informé. Et si vous allez sur le Facebook de J'aime Kako Ministries, vous allez voir, j'ai mis une vidéo dessus. J'ai mis la vidéo des premières personnes à qui on implante la puce électronique. Ça a déjà commencé, le programme a déjà commencé. Aux États-Unis, c'est passé. Vous savez que la loi de Barack Obama, en fait, la loi de santé là, des trucs des États-Unis, est assortie justement de l'implantation de la puce RFID, c'est-à-dire c'est une puce qui permet d'avoir toutes les informations concernant une personne pour que le système de sécurité et de santé soit renforcé aux États-Unis. Ils vont vous dire que c'est pour renforcer la santé. Quand un médecin vient, il n'a pas besoin de ta carte vitale. Ta carte vitale est déjà intégrée. Il n'a pas besoin de regarder, par exemple, vous avez vu l'avion qui s'est écrasé au Mali. On n'a pas trouvé de corps. On n'a pas trouvé de corps. Donc les gens disent, ils vont faire quoi? Ils vont faire des prélèvements ADN. Okay? Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des prélèvements ADN sur les familles des disparus. Et comme ça, ils vont pouvoir identifier et certifier que, effectivement, ton parent était effectivement là, ton parent était effectivement là, ce genre de choses. Mais ils vont vous dire, mais regarde, quelqu'un peut disparaître comme ça. Oh si, il a une puce. S'ils avaient des puces, les puces allaient se désactiver. Donc quand une puce se désactive, ou bien quand une puce s'arrête, on sait que la personne est décédée ou ceci ou cela. Donc rien que pour avoir la sécurité et ce genre de choses, ils vont pouvoir vendre cette puce-là. Déjà, on a déjà même habitué les gens avec les cartes. Maintenant, toutes vos cartes de crédit, de débit, il suffit que vous les présentiez devant le lecteur pour pouvoir payer maintenant. On commence à habituer les gens à ça. Donc nous sommes dans les temps de la fin. Mais il y a une particularité au temps de la fin. Dans le livre de Daniel, chapitre 11, verset 32. Daniel 11, 32. J'ai pris plusieurs versions parce que ces plusieurs versions qui nous permettent vraiment de bien comprendre le verset. Il dit dans Daniel 11, 32, il séduira par des flatteries les traîtres de l'Alliance. Ça, c'est dans la version Louis II. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils feront quoi? Ils agiront avec fermeté. Le mot qui est traduit par fermeté ici peut être également traduit, ils agiront avec force. Amen. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec force. Vous avez d'autres versions, de toutes les façons. On n'a pas besoin de tordre de cou à ce verset. Vous prenez par exemple dans la version Martin. Bon, vous ne l'avez pas, moi je l'ai. Je vais la lire dans la version Martin. Il dit, dans la version Martin, au verset 32. Verset 32, il dit, « Et il fera pécher par flatterie ceux qui se porteront méchamment dans l'Alliance. » Mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Amen. Le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera et fera de grands exploits. Amen. Donc, il y a une catégorie de personnes qui aura la particularité de pouvoir se fortifier. Et c'est ceux qui vont pouvoir se fortifier, qui vont pouvoir faire de grands exploits. Les exploits ne sont pas donnés à tout le monde. Un exploit, c'est quelque chose, c'est un accomplissement extraordinaire. Un exploit, c'est quelque chose qui n'a pas forcément été fait auparavant, ou peut-être qui a été fait auparavant, mais généralement, quand on dit que quelqu'un a fait un exploit, c'est qu'il a fait quelque chose qui, en temps normal, le dépasse. Qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il soit capable de faire cette chose-là. Amen. Mais avant de faire l'exploit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ils se fortifieront. Le peuple qui connaîtra, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifiera. Ça veut dire quoi? Que dans les temps de la fin, il y a une vague qui va souffler. Un vent qui va souffler. Ça sera un vent de découragement. Ça sera un vent de morosité. Ça sera un vent de dépression. Écoutez-moi, c'est ce qui se passe actuellement. Les gens sombrent dans la dépression et ne savent même pas comment. Je vais vous dire une chose. Les gens ont étudié la qualité de l'eau. Je ne sais pas pour les autres pays, mais en France, particulièrement en France. L'eau du robinet, là. Ils se sont rendus compte que dans l'eau du robinet, il y a des antidépresseurs dedans. Oui. Qu'est-ce que les gens prennent beaucoup ici, là? Les somnifères. Il y a des somnifères dedans. Oui. Vous savez que prendre les cachets, ce n'est pas la meilleure manière de se soigner. Parce que quand vous prenez des cachets, plus de 60% de l'action du médicament se retrouve dans vos urines. Or, les urines vont où? Ça va dans les égouts. Les égouts vont où? Dans les stations d'épuration. Et dans les stations d'épuration, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie l'eau des saletés. Et après, qu'est-ce qu'on fait? De l'eau qui est nettoyée, ça retourne dans les robinets. Donc, on n'enlève pas la totalité des médicaments. C'est pas possible. L'eau qui est bue là déjà est déjà une attaque même, déjà. Pour ça que vous avez des gens, ils sont là, ils sont fatigués, ils ont sommeil, ils sont lourds. Je dirais pas que c'est à cause de l'eau seulement. Même l'environnement aussi, bizarre. On dit c'est la crise. Le moral des Français en baisse. Le moral même des hommes sur la terre. On voit pas d'issue. C'est des mauvaises nouvelles. C'est ceci, c'est cela. Qu'est-ce qui se passe? Les gens sont en train de sombrer petit à petit dans une forme de dépression générale. Et vous allez me dire, non, la dépression ne peut pas atteindre un homme de Dieu. La dépression ne peut pas atteindre un enfant de Dieu, ne peut pas connaître la dépression. Je vais vous dire quelque chose. Élie, le prophète Élie, lorsqu'il a réglé le problème, les 250 prophètes de choses de Baal, qu'est-ce qui s'est passé après? Quand Akab l'a menacé, Jézabel l'a menacé, que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si aujourd'hui je ne te traite pas dans... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Élie est tombé dans une dépression. Or, la Bible dit d'Élie que Élie était un homme comme nous, n'est-ce pas? Mais il a prié et le ciel s'est fermé pendant 3 ans et demi. Et il a fallu qu'il prie encore pour que le ciel s'ouvre. On parle d'Élie comme un homme puissant de prière. Mais malgré ça, il est tombé dans la dépression à tel point qu'il était devenu suicidaire maintenant. Il a dit, mais Seigneur, il faut prendre ma vie en même temps. Au moins, il a eu cette force-là. Parce que vous savez, si on est honnête, là, il y a des gens qui vont reconnaître qu'il est arrivé des moments où ils se sont dit peut-être parti, disparu, mourir même est mieux. Mais ce qui fait la particularité du chrétien, c'est que, enfin, de certains, parce qu'il y a encore aujourd'hui des chrétiens qui se suicident, c'est qu'il y en a qui savent que s'ils se suicident, ils vont aller direct en enfer. Donc, au lieu de dire, je vais me suicider, Seigneur, il faut me prendre. Donc, c'était la prière d'Élie. Mais vous imaginez, Élie, c'est un homme de prière dangereux. Quand il prie, Dieu l'exauce. Élie a prié pour que Dieu l'enlève, pour mourir. Mais au lieu qu'il meure, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé un ange qui est venu lui apporter à manger et à boire. Pas en grande quantité, il n'est pas venu lui donner un festin de nourriture. Il est venu lui donner une nourriture qui vient du ciel. Élie a mangé, il a bu et il s'est recouché. L'ange l'a tapé, il lui a dit non. Considère ce que je t'ai apporté. Il s'est réveillé encore, il a pris, il a mangé, il a bu. La Bible dit, avec la force, voyez, Dieu lui a donné quoi? La force. Quand tu commences à te sentir abattu, quand tu te commences à te sentir faible, quand tu commences à sentir que les problèmes veulent t'envahir, t'engloutir, que tu n'arrives plus à avancer, ta vie commence à stagner, il faut savoir une chose, tu as besoin de plus de force. Et la particularité des enfants de Dieu, c'est qu'ils savent où chercher la force et où trouver la force. Tu ne vas pas trouver la force chez les psychologues. Tu ne vas pas trouver la force chez les psychiatres. Au contraire, eux là, ils vont t'enfoncer encore davantage. Il y a des piqûres là, quand on te fait là, tu redeviens plus normal. À part la grâce de Dieu. Mais il faut savoir trouver la force parce que les problèmes psychologiques et psychiatriques et les problèmes émotionnels seront les plus grands problèmes des temps de la fin. Parce qu'il y a une machination. Mais il a dit, mais le peuple de ceux qui connaîtront leur Dieu fera quoi? Se fortifiera. Ça veut dire quoi? Ils vont savoir comment obtenir de la force. Comment résister. Comment élever le niveau? Comment être plus fort? Dis à ton voisin, fortifie-toi. Et prends courage. Alléluia. Ce n'est pas la seule version. Il y a une autre version que j'ai trouvée intéressante, c'est la version Darby. La version Darby. Je vous conseille, si ce n'est pas le cas, d'avoir plusieurs versions de la Bible. Amen. Comme ça, quand vous faites une étude, pas pour tous les jours, mais quand vous faites une étude d'un verset ou que vous méditez un verset ou cette semaine, c'est tel verset que je vais méditer, vous prenez au moins 3-4 versions différentes et vous lisez le même verset dans 3-4 versions différentes. Et vous allez le comprendre davantage. Ceux qui ont des applications, là, il vous suffit de sélectionner la version, une autre version. Vous avez généralement, pour la Bible online, vous avez, je crois, au moins 15 à 16 versions françaises qui sont embarquées. Ce n'est pas pour le fun. Prenez les versions, lisez, parce que ça donne le même verset. Vous allez avoir plusieurs indications différentes et ça vous permet d'avoir une vision globale de la chose et de comprendre l'essence même du verset. Daniel 11, 32, encore le même verset. Le verset 32, mais dans la version Darby. Qu'est-ce que la version Darby dit? La version d'Abi nous dit, et par de douces paroles, donc vous voyez que les flatteries là, c'est des douces paroles. Et par de douces paroles, il fera quoi? Il entraînera à l'impiété ceux qui agissent méchamment à l'égard de l'Alliance. Amen. Mais le peuple qui connaît son Dieu sera... Ah, vous avez la version, il y a des personnes qui ont la version. Amen. Mais le peuple qui connaîtra son Dieu, le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Alléluia. Le peuple qui connaît son Dieu sera fort. C'est pour ça que la Bible dit, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. La seule manière de pouvoir échapper à la grande séduction qui va souffler dans les temps de la fin, c'est d'être fort et puissant. Dis à ton voisin, sois fort. Alléluia. Le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort. Et il agira. Donc, ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est eux, oui, mais je ne comprends pas. On a dit qu'on allait être enlevé d'abord. Depuis là, on cherche l'enlèvement, on ne voit pas. Peut-être les gens sont partis. Hein. La dernière fois, mon frère a disparu. Il y a des gens qui ont disparu, on dirait que c'était ça. Non. Le découragement va souffler, mais avec une force terrible. Un esprit de dépression va être lâché sur les enfants de Dieu. Et c'est souvent ce qui arrive. Vous savez, enfant de Dieu ou pas, quand tu commences ton entreprise, tous les entrepreneurs vont te le dire, il y a un moment où tu te demandes, et ça c'est arrivé à tous les entrepreneurs, Qu'est-ce que je fais là? Dans quoi est-ce que je me suis embarqué? Est-ce que ce n'est pas ma fin qui est arrivée? Certainement, je me suis trompé. C'est-à-dire qu'il y a une période de doute qui va arriver. Dans le ministère, c'est pareil. Dans les affaires, c'est pareil. Écoutez tous les témoignages des gens qui ont réussi leurs entreprises, les témoignages des gens qui ont réussi leur ministère. À un moment, ils se sont posé la question de savoir, mais est-ce que Dieu même les a appelés? Est-ce qu'ils ne se sont pas appelés eux-mêmes? Mais la particularité de tous ceux qui aujourd'hui sont au sommet, de tous ceux qui aujourd'hui ont réussi et qui peuvent regarder en arrière et qui peuvent dire, je l'ai fait, je l'ai accompli, c'est qu'au moment où ils ont été les plus bas, au moment où ils ont été les plus découragés, ils ont su faire les choses qu'il fallait faire, s'appuyer sur les choses sur lesquelles il fallait s'appuyer pour pouvoir se mettre au-dessus de la situation et avancer. C'est ce qu'on appelle se fortifier. Dis à ton voisin, fortifie-toi. Alléluia. Vous avez vu dans la version Martin, mais le peuple qui connaît son Dieu sera fort et agira. Alléluia. Dieu nous avertit ici dans le Proverbe 24. Prends Proverbe 24. C'est Salomon qui a écrit ce proverbe-là. Je vous conseille de le lire en entier même, si vous pouvez. Amen. Proverbe 24. Mais le verset qui nous intéresse, c'est le verset 5. Il dit, au verset 5, il dit quoi? Au verset 5, l'homme sage a quoi? A de la force. Et l'homme de connaissance a fermé sa puissance. L'homme sage a de la force. Ça veut dire qu'un homme sage, c'est un homme qui est prévoyant. C'est un homme qui connaît Dieu. C'est un homme qui a ce qu'on appelle la sagesse. Amen. Et il sait que quelqu'un qui est sage ne peut pas être pris par surprise. Donc en fait, quand il dit ici, l'homme sage a de la force, c'est pour dire que l'homme qui ne veut pas être surpris, il va savoir se fortifier. La force. L'homme sage a de la force. Et l'homme de connaissance a fermé sa puissance. Alléluia. Dis à ton voisin, sois fort. Sois puissant. Amen. Dans la version Darby, pour vous, juste pour vous. Ah, c'est la version même Darby que j'ai lue, hein. Non, ça c'est la version Louis II. Mais la version d'Abi dit, l'homme sage a plein de force et l'homme de connaissance... Ah non, moi j'ai lu la version d'Abi en fait. C'est ça? C'est pour ça que certains me regardaient là. Je vais lire la version Louis II. Ils disent, mais ce n'est pas le même verset, on dirait. Proverbe 5. Voilà. Proverbe 5, dans la version que vous avez, la version Louis II, un homme sage est plein de force. C'est ça? Et celui qui a de la science... a fermé sa vigueur. Donc, vous voyez, lis plusieurs versions, c'est intéressant. Darby dit, l'homme sage a plein de force, aussi, amen. Et l'homme de connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il a fermé sa puissance. Ça veut dire quoi? Que la connaissance a fermé la puissance. Vous voyez? La connaissance, il y a deux... facteurs, deux sources essentielles de la force. Deux sources essentielles. Deux grandes sources de la force. La première source, c'est le Saint-Esprit. Amen. Comme on l'a vu dans Éphésiens 3, où il dit, je prie afin qu'il vous fortifie par son esprit dans votre homme intérieur. Amen. Donc, il y a une force qui vient par l'homme intérieur qui est insufflé par qui? Par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit va rendre des gens forts. Amen. Mais il n'y a pas que le Saint-Esprit comme source de force. Parce que le Saint-Esprit, lorsqu'il va insuffler en toi la force, il va falloir que cette force soit nourrie. C'est pour ça que souvent quand on parle du Saint-Esprit, on dit le feu de l'Esprit. Ou il est présenté également sous une forme de feu. Mais un feu, il a besoin d'être alimenté pour pouvoir demeurer. Il a besoin d'être alimenté pour rester grand. Il a besoin d'être alimenté pour rester fort. Et si c'est un feu, pour que le feu là puisse demeurer, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre du bois. Tu vas régulièrement faire quoi? On dit, tu vas faire quoi? Tu vas le nourrir. C'est pour ça qu'on dit, on nourrit un feu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? On nourrit un feu. Donc, le feu, il est là. L'esprit vient. Et l'esprit commence à agir dans ta vie. Il te fortifie, il te oint. Maintenant, il faut que ce feu-là, tu dois le nourrir. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas comment nourrir ce feu. Tu vas me dire, c'est la prière. Oui, la prière, c'est important, ça fait partie. Il faut prier, il faut beaucoup prier, c'est important, il faut prier, c'est bien de prier. Mais la prière est plutôt la manière de canaliser cette puissance. La prière, c'est la manière de canaliser cette puissance. Quand tu as l'onction et que l'onction doit agir, ça va agir comment? Par les paroles que tu vas prononcer et par les prières que tu vas faire. Donc c'est le canal pour libérer la puissance. Mais comment tu nourris cette puissance? Il explique en disant, celui qui a de la science qu'on l'a vu dans l'autre verset, c'est la connaissance, l'homme de connaissance. Celui qui a la science ou l'homme de connaissance, qu'est-ce qu'il fait? Il affermit sa puissance. Alléluia. Donc, deux manières de se fortifier. C'est pour ça qu'on vous lisait encore Daniel 11, 32. Il dit, ceux qui connaîtront leur Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu. Une fois, Jésus a dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé. La connaissance. C'est bizarre. Mais la connaissance nous rend plus forts. Tu prends deux personnes. Il y en a un qui a de bonnes informations, l'autre n'a pas les bonnes informations. Celui qui a les bonnes informations, il va accomplir deux fois plus que l'autre qui n'a pas les bonnes informations. Vous savez ça? La connaissance nous fait gagner du temps. La connaissance accélère le processus. Vous savez pourquoi très souvent certaines prières restent lettres mortes ou bien certaines prières sont des fois plus folkloriques qu'autre chose? C'est parce que ce sont des prières pour beaucoup qui sont faites dans l'ignorance. Vous avez des gens qui aiment utiliser des formules. Ça fait bien. Seigneur, tu vois. Seigneur, tu vois. Oui, il voit. T'as pas besoin. Il voit tout. Seigneur, regarde ma souffrance. Regarde comment. Seigneur, regarde la situation. Toi-même, tu vois. Tu vois pas que actuellement, si tu fais rien, je suis foutu. Il voit. Alléluia. Mais quand quelqu'un connaît Dieu, quand quelqu'un connaît la parole de Dieu, c'est pour ça que comment est-ce qu'on va nourrir la puissance? En mangeant la parole. C'est pour ça que Jésus a dit, quand justement le diable est venu l'attaquer, il a voulu mettre la dépression sur lui. Il a dit, si tu es vraiment le fils de Dieu, ça veut dire que ça c'est le doute. Ah donc peut-être que je ne suis pas vraiment le fils de Dieu. Si tu es vraiment le fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? L'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Il est en train de lui répondre. Il dit, tu penses que tu as affaire à un faiblard? Tu penses que tu as affaire à un bébé? Moi, je ne mange pas seulement la nourriture pour mon corps. Je mange aussi la nourriture pour mon esprit. Je mange aussi la nourriture pour l'homme intérieur. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est la parole. Le problème aujourd'hui, c'est que on n'a plus trop, mais ça c'est seulement dans le monde francophone. On aime avoir un bon message une fois à la convention ou au séminaire. Non, la parole, les bons messages, tu dois les avoir tous les jours. tous les jours, se fortifier, c'est nourrir son esprit avec la parole de Dieu tous les jours. En faisant ça, l'homme intérieur va bouillir de force et d'énergie et de puissance. On pense que non, il faut simplement aller à l'église le dimanche. Et puis des fois, ça devient comme une corvée. Dès qu'il y a une petite opportunité de ne pas aller au culte, oh non, non, je me repose, je fais ci, je fais ça. Mais on ne sait pas que ceux qui se fortifient, la Bible dit, ceux qui connaîtront leur Dieu se fortifieront. Mais vont se fortifier comment? En faisant quelque chose que les autres ne font pas. C'est qu'en semaine, ou le dimanche, et dans d'autres jours de la semaine, ils vont se réunir pour faire quoi? Pour lire la parole, méditer la parole, prier. Oui, non, mais ça, je fais ça depuis, je ne vois pas. Mais est-ce que tu l'as fait jusqu'à obtenir le résultat? Le problème, c'est que on ne reste pas assez longtemps dedans. C'est-à-dire, les gens, enfin, en grande partie, je dis les gens, c'est en général, qu'est-ce qu'on va faire? Pendant quand on a besoin de quelque chose, ou quand on veut quelque chose, ou quand c'est chaud, on va mettre de l'énergie. Là, on te voit, mardi, jeudi, dimanche. Des fois même, quand on veut ouvrir la porte, tu es déjà là. Après, on rentre dans une autre phase, c'est la phase du découragement. Ah, j'ai fait ça pendant 3 semaines, je n'ai rien vu. Et là maintenant, pendant 2 mois, tu es à la maison. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vraiment, ça ne va pas, je suis fatigué, je ne comprends pas. La vie, c'est trop dur, vraiment, Seigneur, aide-moi. Et après, tu reviens. C'est comme quelqu'un, excusez-moi, mais je vais vous donner juste, vous savez, de la même manière qu'on se fortifie spirituellement, on se fortifie aussi physiquement. C'est à peu près la même chose. Il y a une manière où qu'on fait pour le physique, il y a une autre manière où on fait pour le spirituel. Ok? C'est comme quelqu'un, pendant 2 mois, il dort, il regarde la télé, il mange. 2 mois, il dort, il regarde la télé, il mange. Après, il dit, ah, il y a une compétition dans 1 semaine. Hein? Il y a une compétition dans 1 semaine. Le gros lot, c'est 10 000 euros. Donc, je vais aller courir aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est dans 1 semaine. Donc, pendant 2 mois, il a passé son temps à se prélasser. Maintenant, on lui dit, la compétition, c'est dans 1 semaine. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le matin, tu le vois, il est en jogging à 5 heures du matin. Je vais m'entraîner. Et il commence à courir. Il court, il court, il court, il court. Il soulève les poids. Il fait tous ces trucs-là. Qu'est-ce qu'il va avoir? À la fin de la semaine, des courbatures, mal de dos, mal d'articulation. Il va être malade. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se coucher. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra pas courir. Celui qui sera performant et celui qui sera opérationnel le jour de la course, c'est celui qui pendant 3 mois, au lieu de faire de gros efforts dans une période réduite, c'est celui qui aura plutôt fait des petits efforts dans une grande période. Est-ce que vous me suivez? C'est comme pour la nourriture. La parole de Dieu est une nourriture. Il a dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, faisons avec la parole comme on fait avec la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme sensé ne va pas préparer tous ses repas et les manger le dimanche et puis rester toute la semaine sans manger. N'est-ce pas? Tu dis non, je ne mange pas le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, mais le dimanche, là, poulet braisé, poisson, frites, riz, aloco, tous les trucs que tu as envie de manger, tu fais un gros truc avec la semoule et tout ça, et puis les moules frites, toute la nourriture de la semaine, tu peux manger ça un dimanche. Mais tu vas te tuer. Parce que toute la semaine, tu n'as pas mangé, donc ton estomac est devenu petit. Maintenant, le dimanche, là, tu veux maintenant tout manger. Donc, tu risques de faire éclater ton estomac. C'est les pompiers qui vont venir te chercher. Se fortifier. Même quand on te dit, oui, bon, ok, je me sens faible. Je vais voir le médecin. Quand tu vas voir le médecin, tu dis, je suis un peu fatigué, je me sens faible physiquement, j'ai besoin de vitamines. Est-ce que le médecin te dit, tiens, voilà, tu vois le flacon de vitamines là? Prends tout. Prends tout aujourd'hui. C'est pas possible. Il te dit quoi? Il te dit, prends un cachet tous les jours. Ou bien matin, midi et soir, pendant 30 jours. C'est comme ça que tu vas te fortifier. Mais non, 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 non. Je suis trop fatigué. Tu prends le truc de vitamine. Ça ne va pas t'aider. Donc, il faut qu'on revienne à notre sens. Les enfants de Dieu, vous savez, dans l'église primitive, ils se réunissaient tous les jours. Tu vas me dire, c'est vrai, ils n'avaient pas Internet. Ils n'avaient pas de lecteur MP3. Ils n'avaient pas de comment on appelle ça, ils n'avaient pas toutes les facilités qu'on a maintenant pour pouvoir communiquer. Mais ça ne veut pas dire que quand on veut être fort spirituellement, on vient à l'église, on écoute un message 40 minutes, et après, pendant toute une semaine, on ne reçoit rien. Lis la Bible au moins 30 minutes chaque jour. Chaque jour. Pas un jour. Aujourd'hui, c'est mon jour de lecture de la parole. Et puis, tu t'assois, tu commences à lire Genèse 1, Genèse 2. À partir de Genèse même, vers les versets 20, là, déjà, tu commences à bâiller déjà. Pardon. Lis seulement un seul chapitre ou même 4 versets. Chaque jour, c'est mieux que de lire un livre en entier une fois par semaine ou une fois par mois. Les enfants de Dieu doivent savoir se fortifier. Écoute un message. Va au moins à une réunion de prière une fois par semaine. Ah non, moi je prie à la maison. Prier à la maison, ce n'est pas la même chose que prier à l'église. Prier seul n'a pas la même puissance que prier avec d'autres personnes. Il dit, un chassera 1000, deux chasseront 10 000. Il y a de la force dans l'unité, dans la corporation. Quand vous vous mettez ensemble, là où deux ou trois sont assemblés, je suis présent au milieu d'eux. Quand l'église se lève pour prier, ça apporte de l'énergie, de la force. Tous ceux qui viennent aux réunions de prière, ils prient comme ils n'ont pas l'habitude de prier chez eux à la maison. Je t'en prie, c'est vital. Tu dois savoir te fortifier. Alléluia. Il y a 8 autres éléments que Dieu nous a donnés pour la force. Je vais juste les citer. On va les étudier pendant les prochaines semaines. 8 sources de force dans la vie chrétienne que nous devons connaître et appliquer. Vous avez la force de l'onction. Amen. La force de l'onction. C'est-à-dire que Dieu a conçu l'onction pour nous donner la force. Un ou un, il a toujours la force. Alléluia. En réalité, l'onction, c'est la force pour faire quelque chose que Dieu te donne. Donc, vous avez la force de l'onction. Vous avez aussi ce qu'on appelle la force de la sagesse. C'est pour ça qu'il dit, l'homme sage est plein de force. Lui, il n'a pas la force dans les biceps, mais il a la force dans l'esprit. Alléluia. L'homme sage est plein de force. Il arrive à faire des choses qui nécessitent de la force sans lui-même user de force physique. C'est pour ça que la Bible dit que j'ai vu un homme sage, il est plus fort que 10 armées. Un homme sage est plus fort que des gens qui sont armés. Amen. Donc, il y a la force dans la sagesse. Donc, on va étudier la force de la sagesse. Il y a également la force de la foi. Alléluia. La foi. Tu vois, ce sont des éléments que tu peux étudier même 10 ans et revenir constamment dessus. Chaque année, il y a des révélations à avoir sur l'onction. Chaque année, il y a des révélations à avoir sur la sagesse. Chaque année, il y a des révélations à avoir sur la foi. Ce sont des choses que tu dois travailler. Amen. Vous avez la force de la connaissance. J'ai briefé ça un peu aujourd'hui, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. En réalité, le peuple périt parce qu'il lui manque la force. Le peuple périt parce qu'il lui manque la force. Le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Pourquoi il lui manque la force? Parce qu'il lui manque la connaissance. En d'autres mots, la connaissance donne la force pour pouvoir obtenir les résultats. Ces deux-là sont liés. La force de la connaissance. Alléluia. La force du zèle. Le zèle. Quand des miracles doivent être accomplis, les gens ne font pas les choses avec nonchalance. Le zèle, il dit, le zèle de ta maison me dévore. Quand je dois accomplir quelque chose de fort, de puissant, je ne le fais pas avec la main molle. Je la fais avec force et avec puissance. Le zèle. Ça, c'est un élément aussi qui manque. Vous avez également la force de la persévérance, la force de la consécration et vous avez la force de l'amour. Alléluia. Par la grâce de Dieu, on va revoir chacun de ces 8 éléments dimanche après dimanche, pour que nous puissions grandir dans la force. Touche ton voisin, dis-lui, sois fort. Alléluia. On va se lever, on va prier le Seigneur. On va se lever, on va prier notre Dieu. On ne va pas faire la prière d'Élie. Où il dit, Seigneur, tu vois comment la situation est devenue difficile et comment on souffre sur cette terre. Enlève-nous, fais-nous partir, Seigneur, viens nous chercher. Vous voyez, spirituellement, ça fait penser aux personnes qui attendent l'enlèvement. Pardon, il ne faut pas attendre l'enlèvement. On aura l'occasion d'en parler lors de nos formations de l'école biblique. Mais vous allez voir que les persécutions, ça fait partie du processus. Aujourd'hui, par exemple, les chrétiens d'Irak, qu'est-ce qu'ils vont dire? Pourquoi ils n'ont pas été enlevés? Aujourd'hui, l'Apocalypse est en train de s'accomplir dans la vie des chrétiens d'Irak. Parce que certains sont décapités à cause de l'Évangile, à cause de Jésus-Christ. On leur dit, tu te convertis ou bien tu meurs. Et le djihad islamique, là, c'est en train de prendre tout le Moyen-Orient. La seule raison pour laquelle Israël est encore debout, c'est parce qu'ils ont la bombe atomique. Le jour où ils n'ont pas les armes, ils sont foutus. La dernière fois, justement, je discutais avec quelqu'un et puis il dit, non, Israël, ils font ci, Israël, ils font ça. Lui, il ne comprend pas. Je lui ai dit, le problème, ce n'est pas Israël, le problème, c'est les autres. Il dit, pourquoi? Je dis, c'est simple, c'est très simple. Imagine seulement qu'Israël n'ait pas les armes. Qu'est-ce qui va se passer? Il dit, en un jour, ils vont être effacés. Pourquoi est-ce qu'Israël est encore là? Quand ils ont décrété l'État d'Israël, dans les mois qui ont suivi, ils ont été attaqués par l'Égypte et par tous les pays arabes qui étaient autour. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont là actuellement? Parce qu'ils sont forts. C'est spirituel. Eux, c'est l'Israël physique. Nous sommes l'Israël spirituel. Si tu n'es pas fort, tu disparais. Si tu n'es pas fort, tu es écrasé. Eux, ils sont là parce qu'ils sont forts. Donc, n'attends pas l'enlèvement. Seigneur, c'est quand l'enlèvement? Seigneur, il faut m'enlever. Non, Élie criait, Seigneur, enlève-moi. Dieu lui envoyait la réponse. Et c'était quoi la réponse? La force. Pour faire quoi? Pour surmonter l'obstacle et surmonter l'adversité. Dieu ne va pas t'enlever. Dieu va te fortifier. Alléluia. Élève la voix et prie ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je veux grandir dans la force. Je veux me fortifier. Je veux être comme toi, fort et puissant. Je veux déjouer les mensonges de l'ennemi. Je veux déjouer les pièges du diable. Je veux déjouer les paroles douces de l'ennemi. Je veux déjouer les séductions de l'ennemi. Je refuse de me laisser enliser dans le mensonge, dans la froideur, dans la tiédeur spirituelle. Et je déclare, au nom de Jésus, que je serai fort, que je serai puissant, car tu as ordonné que je le sois. Je refuse, Seigneur, de baisser les bras. Je refuse, Seigneur, d'abandonner. Je refuse, Seigneur, de me laisser abattre. Mais je déclare que tu me trouveras debout. Tu me trouveras debout comme un ouvrier qui n'a point à rougir devant son maître. Je serai fort. Je serai puissant. Je serai oint. Je serai rempli de l'esprit et de la parole. Élève la voix. Seigneur, remplis-moi. Alléluia. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta parole. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous, Seigneur.